En ce 25 janvier, à Rencontre spirituelle, nous allons aborder un sujet dont il a d'ailleurs été question passablement par M. René Barbin de 7h à 9h aujourd'hui en parlant de la conversion de Saint Paul. C'est une des grandes fêtes de l'année, on n'y pense pas assez parce que vraiment à partir de cette conversion extraordinaire, étonnante, à laquelle il est difficile parfois de croire, eh bien par tout ce mouvement de la conversion des peuples au christianisme. Et c'est vraiment étonnant ce qui vient de cette conversion extraordinaire que je vais vous raconter. C'est aussi la fête du compagnon Saint Paul, cet homme qui l'avait reçu à Damas, Ananie, on l'appelle Saint Ananie. Et puis aussi d'un autre compagnon Saint Paul, Apollos, dont il est question parfois hein, quand il dit « Ah, moi j'appartiens à Apollos, moi j'appartiens à Paul, j'appartiens ». Il parle contre les divisions, hein, il est contre les gens qui se rapportent à telle et telle et telle personne plutôt qu'au Christ. Nous appartenons au Christ quand nous sommes chrétiens, et nous, catholiques, nous le savons, c'est au Christ que nous appartenons. Et c'est aussi la fête de quelqu'un qui a un nom très étrange, Artémas de Pouzol, il a vécu au début du IVe siècle. Mais c'est aussi la fête d'un très grand saint, Grégoire de Nazianze, patriarche de Constantinople, donc chef de l'Église d'Orient, qui était uni à l'époque à l'Église catholique, et nous ne formions qu'une seule Église. Il est docteur de l'Église, il est mort en 390. Je vous en parlerai l'an prochain avec grand plaisir, car j'aime beaucoup Grégoire de Nazianze. Pour ce qui est de la conversion de Saint Paul, je vous rappelle quelques détails. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. C'est sur la route de Damas que le Christ ressuscité, se révèle à un juif qui s'appelle Saul. C'est un juif assez intransigeant, d'après les textes des Actes des Apôtres. Et aussi ses propres textes dans certaines des Épîtres quand il parle de sa conversion. Il en parle plusieurs fois. C'est Saint Luc qui nous a rapporté sa conversion dans les Actes des Apôtres. Je vous rappelle, pour ceux qui connaissent moins bien la Bible, c'est la première histoire de l'Église, si on veut, elle est dans la Bible, juste après les quatre évangiles. Après l'évangile de Saint Jean, quoi. Donc, c'est un juif intransigeant. Il est défenseur de la tradition judaïque, la grande tradition des Juifs, d'où notre religion est sortie, n'est-ce pas? Et le Christ le change, il le transforme. Il fait de Saul, ce juif, l'apôtre Paul. Et Paul va porter le message chrétien hors des milieux juifs. Le message, là, « Je suis Jésus que tu persécutes », qu'il reçoit au moment de cette conversion, a fait prendre conscience à Paul de la présence de Jésus, Seigneur ressuscité, dans le plus humble des chrétiens. Et ça a été la transformation de Paul et la transformation de millions, pour ne pas dire de milliards de gens au cours des 2000 ans. Je tire mes renseignements d'un ouvrage extraordinaire qui m'a été donné par Sœur Monique Bellil de la Congrégation de Sainte-Croix. Si je n'avais pas eu ces dons de la Congrégation de Sainte-Croix, avec laquelle je n'ai pour ainsi dire pas de lien, je ne connais pas vraiment les Sœurs de Sainte-Croix. Elles ont été d'une gentillesse à mon égard, unique. Aucune communauté n'a pensé à moi, sauf elle. C'est absolument phénoménal. Et tout ce qu'elle m'a remis de livres et de renseignements, c'est des dizaines et des dizaines de livres et de dictionnaires, et ça a été formidable. Donc je vais lui rendre hommage, et je rends hommage à la Congrégation de Sainte-Croix qui m'a offert le livre « Paul de Tarse », immense ouvrage d'un Allemand, Joseph Holzner. Il est dit au début du livre que la personne, les doctrines et les méthodes missionnaires de Saint-Paul sont de plus en plus à l'ordre du jour aujourd'hui dans un Occident qui se déchristianise. Le caractère communautaire, le caractère révolutionnaire, le caractère même dynamique de son action à Saint-Paul, puis son enseignement, a devancé, on peut dire, toutes nos aspirations modernes. Les chrétiens d'aujourd'hui, les prêtres, les apôtres laïcs surtout, doivent connaître familièrement Saint-Paul. Et ce matin, M. René Barbin, directeur des émissions ici à Radio Ville-Marie, nous en a cité de longs passages pendant 2 heures tout en nous faisant entendre du beau chant grégorien. Et Saint-Paul sera pour tous ses prêtres et ses apôtres un allié puissant dans des entreprises les plus hardies, hein, car il faut lire Saint-Paul si on veut se transformer. Je crois que c'est très, très important. Hein. Pourquoi s'acheter 1000 et 1000 et 1000 ouvrages quand on n'a pas encore lu Saint-Paul? C'est inimaginable. C'est un auteur difficile, d'accord, à cause de la plénitude de sa pensée puis de sa passion qui remplit son âme, qui fait éclater toutes les conventions. Mais si on s'y applique avec des commentaires ou avec des introductions ou une vie de Saint-Paul, il y en a beaucoup. Allez en librairie, il y en a de très belles. Il y en a une encore qui vient d'être publiée par les éditions Médiapol. Les pères de Saint-Paul, les sœurs de Saint-Paul, ils ont des librairies. Boulevard Gouin, rue Saint-Denis, etc. Et alors, cette biographie du docteur Holzner, Joseph, c'est une biographie à la fois historique, psychologique, spirituelle, mais elle est énorme, elle se lit admirablement bien. C'est absolument fascinant à lire, fascinant. On n'en démord pas. Paul, d'ailleurs, comme il le dit, constate que les chrétiens qui meurent devant lui, comme Saint-Étienne, vous savez, je vous ai raconté le jour de la fête de Saint-Étienne à la fin de décembre, comment Saint-Étienne qui a été lapidé, c'est le premier martyr, Saint-Paul était là. Saint-Paul a assisté à ce martyr, car Saint-Paul persécutait les chrétiens. Je ne devrais pas dire Saint-Paul, je devrais dire Saul, n'est-ce pas? C'était son nom de juif. C'était pas un mauvais juif. C'était un juif intègre qui persécutait ces hérétiques, ces schismatiques, cette petite secte que nous étions. Il faut voir avec les yeux de l'époque. Hein. Il faut comprendre que Paul croyait bien faire. Et à l'époque, la vie humaine, on la supprimait quand elle ne faisait pas notre affaire. On le sait, au XXe siècle, des centaines de millions de gens ont eu à souffrir de ça, à tout le moins des dizaines de millions de gens. Et alors, Paul constate, quand il les voit mourir, ces chrétiens-là, qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a une douceur. Il y a une espèce de bonheur intime qui habite ces martyrs-là. Il y a quelque chose qui semble venir d'une vie supérieure, une union extraordinaire, inébranlable, avec leur ressuscité, ce Jésus de Nazareth qu'ils disent qu'il est ressuscité. Il y a comme une espèce d'échange tout intérieur avec celui qui leur a donné la certitude d'aller, non pas à la mort, mais à la vie. C'est une lumière qui semble venir d'un autre monde. Ils constatent ça, ils la rapportent d'ailleurs plus tard. Hein. Et ça surpasse ça, toutes les autres lumières. C'est pour ça que quand je vous parle des martyrs, souvent les récits des martyrs vous semblent un peu exagérés, mais pas du tout. Les martyrs chrétiens souvent meurent avec cette lumière intérieure profonde. Et tout ça, ça lui apparaissait à seul, et ça lui montrait ce que la loi juive, qui peut être très belle en soi, mais elle a d'innombrables prescriptions, et c'est incroyable, tout ce que la loi exige des Juifs. Hein? Mais cette loi n'avait pas su lui donner cette joie profonde. D'ailleurs, je recevais hier un de mes meilleurs amis, c'est un musulman qui fait le ramadan ces jours-ci. Je lui disais, pourquoi tu fais ça? Mais il dit, si je ne le fais pas, je serai mal considéré. Il souriait. Oh, ça fait du bien, ça fait maigrir. Mais c'est au fond une loi, semble-t-il, pour beaucoup de musulmans, à laquelle on se soumet. Nous étions comme ça, nous aussi les catholiques, il n'y a pas si longtemps, nous avions des lois et on ne savait pas trop pourquoi on faisait maigre le vendredi. Mais nous faisions maigre le vendredi, c'était pour commémorer de cette façon-là, rappel, pour commémorer la crucifixion, la mort de Jésus. Alors ce n'est que plus tard, lorsqu'il a été chrétien, que saint Paul a compris. Il a compris, car beaucoup de souffrances viennent d'une fausse éducation religieuse ou d'une éducation religieuse qui est limitée à des lois. C'est une conception erronée de nos rapports avec Dieu, ça. Établir ça sur des lois, ça doit être établi sur l'amour. Hein? On ne doit pas se défier de Dieu, on doit l'aimer, répondre à son amour. Et plus tard, Paul va nous indiquer dans sa lettre aux Romains le chemin de sa guérison. C'est une attitude nouvelle, positive, à l'égard de Dieu. C'est ça la vraie religion, avoir une attitude nouvelle, positive. Qu'est-ce que ça veut dire? ça veut dire d'être rayonnant, d'être des hommes et des femmes habités par un immense oui à Dieu. Comme la Vierge qui a dit oui, elle a été remplie de Jésus-Christ qu'elle a donné au monde. Et nous aussi, nous sommes appelés à la même chose. Et alors, quand on dit si, ce oui profond, c'est toute la tension de l'âme qui se résorbe. Toute cette tension, on parle beaucoup des gens qui ont des tensions nerveuses. Bon, ben, ça va même jusqu'aux assassinats. On en parle de plus en plus. Puis on dit, qu'est-ce qui fait que les hommes tuent leurs femmes et les femmes tuent leurs maris, tuent leurs enfants? Il y a la misère humaine. Il y a le chômage. Il y a le désastre. Il y a l'absence d'espérance. L'absence d'une foi vivante vraie. Oh, ils peuvent être des catholiques, ils peuvent être des musulmans, ils peuvent être de tout ce que vous voulez. Mais sont-ils vraiment de vrais croyants qui reçoivent l'Eucharistie avec paix? Peut-être ne le peuvent-ils pas parce qu'ils sont trop traumatisés et malades. Faut pas les blâmer, hein? Aucunement. Je ne blâme personne. Mais je m'attriste devant la perte de la foi, d'une foi vivante. Hein? Parce que dans ce temps-là, le combat se relâche, le combat contre le mal. Mais aussi, quand on arrive devant Dieu et qu'on dit oui, il y a tout un combat intérieur qui se relâche aussi, mais ça, c'est un autre combat. On s'abandonne. Il en résulte une orientation nouvelle. C'est le climat de l'enfance qui renaît en nous, une enfance confiante, hein, qui est marquée par cette joie de prier, une joie de prier. Quand je vois les gens qui prient, qui ont l'air tristes, je me dis, qu'est-ce qu'ils font là? Comment se fait-il qu'ils n'ont pas le goût de chanter, de répondre aux prêtres, et de dire « Alléluia, Alléluia », et non pas de murmurer ça du bout des lèvres, comme une plainte, comme un gémissement. C'est pas un gémissement, c'est un cri de joie, hein? Ah, Seigneur Dieu, quand est-ce qu'on va vivre notre foi? Il faut avoir un état enthousiaste, hein, où le Saint-Esprit en nous jubile. C'est le Saint-Esprit qui crie au fond de notre cœur « Abba, Père », hein? C'est dans les textes des Évangiles et de la Bible. Et c'est ainsi que saint Paul a liquidé son passé, puis a maîtrisé sa vie. Et chez lui, pas de sentiment maladif de celui qui aurait renié sa foi, pas du tout. Il n'y a pas de haine du passé. Pas du tout. Il ne nie pas même les valeurs qu'en tant que juif, il estimait auparavant. Au contraire, saint Paul sait reconnaître les significations providentielles de cette noble et grande religion juive. Et d'ailleurs, il se proclamera hébreu, fils d'hébreu, juif de la tribu de Benjamin. Il fait face d'ailleurs à son passé sans rancune, hein? Sa vie entière est, comme dit un auteur, une suite d'événements dont l'enchaînement, la suite, est chargée de sens. Quel sens? Faudrait aller le trouver. Et on le trouve dans les Épîtres. On les trouve aussi dans le récit qu'il fait de sa conversion. Je la lis, telle que racontée par saint Luc, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9. Voici le texte. Cependant, Saul ne cessait de menacer de mort les disciples du Seigneur. Je vous rappelle, Saul, c'est son nom de juif, Paul, c'est son nom après sa conversion. Donc, cependant, Saul ne cessait de menacer de mort les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres d'introduction pour les synagogues de Damas, hein, ça se passe à Jérusalem, afin que s'il y trouvait, là, à Damas, des personnes, des hommes, des femmes, qui suivaient le chemin du Seigneur, c'est-à-dire de Jésus, il puisse les arrêter et les amener à Jérusalem. Alors, il était en route pour Damas. Il s'approchait de cette ville. Damas, c'est en Syrie. Hein? C'est un voyage qui dure à peu près 6 jours. Ça. Et quand tout à coup, une lumière qui venait du ciel a brillé autour de lui. Il est tombé à terre. Il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il demanda, « Qui es-tu, Seigneur? » Et la voix répondit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. » Et les hommes qui voyageaient avec Saul s'étaient arrêtés sans oser dire un mot. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre et ouvrit les yeux, mais il ne pouvait rien voir, On le prit par la main pour le conduire à Damas. Pendant 3 jours, il fut incapable de voir. Il ne mangea et ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple appelé Anani. Et le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit, « Anani ?» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Pars tout de suite pour aller dans la rue droite. » C'est assez long, c'est à peu près, pas loin d'un kilomètre. « Et dans la maison de Judas, demande un homme de Tarse, appelé Saul. » Il prie en ce moment. Et dans une vision, il a vu un homme appelé Ananias qui entrait et posait les mains sur lui afin qu'il puisse voir de nouveau. Et Ananias répondit, « Seigneur, de nombreuses personnes m'ont parlé de cet homme et m'ont dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. » Alors vous voyez le changement, et Anani, qu'on célèbre aussi aujourd'hui, avait un peu peur devant cet avertissement. Alors quand Paul jette un regard sur sa vie, il la voit divisée en deux parties. Rien de spécial là-dedans, nous sommes tous comme ça. Hein? Nous voyons nos vies divisées en deux parties, souvent simultanément. Nous sommes des pécheurs. Il voit, lui, d'une façon bien différente, c'est sa vie sans le Christ et sa vie dans le Christ, comme on dit. Et ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est ce grand événement qui sépare ces deux vies, avant sa conversion et après sa conversion. Et en une succession rapide de chutes impressionnantes, il y a eu le meurtre d'Étienne, dont je viens de vous parler, auquel il a assisté, la poursuite des chrétiens en Judée, sa chevauchée, l'affaire Damas, où il veut arrêter des chrétiens. Ça, c'est une vie tumultueuse. On en connaît que très peu, mais il y a eu sans doute bien d'autres choses. C'est une vie tumultueuse que Paul avait. Et ça se précipite vers un grand revirement. Ça va l'aiguiller sur une nouvelle voie. Et sa vie va lui prodiguer des forces gigantesques pour détruire, mais finalement pour édifier et bénir après sa conversion. Et la façon dont ce changement s'est opéré et comment il s'est déroulé à l'intérieur de son âme, ça va toujours rester un secret. D'ailleurs, sans en démordre, Paul a toujours défendu, durant toute sa vie, le caractère surnaturel de sa conversion, cette intervention puissante de Jésus-Christ dans son cœur, sans vouloir porter atteinte au caractère mystérieux de l'événement. On va s'en approcher avec respect, avec l'intention de l'éclairer quelque peu, du point de vue psychologique et historique même, parce que la vision de Damas ne doit pas être un immense bloc qui va nous empêcher de pénétrer dans le secret de la vie de cet apôtre extraordinaire et d'apprécier à sa juste valeur son œuvre absolument étonnante, son action de missionnaire exceptionnelle. Jérusalem avait été purgée des chrétiens de tendance grecque. Les uns s'étaient réfugiés ici et là, à Joppé, où Pierre les instruisait. Il y en avait d'autres en Samarie, où saint Philippe s'occupait d'eux. Certains avaient gagné Damas, d'autres la Syrie orientale, même la Phénicie, Chypre, Antioche. C'était répandu, c'était sauvé. Le courant des réfugiés s'était spécialement porté sur Damas, une des plus importantes colonies israélites, où les Juifs avaient le droit, depuis le temps du roi Achab, de monter des bazars le long des rues. Et la foi de milliers d'Israélites fidèles était donc menacée par l'arrivée de ces chrétiens, de ces étranges personnages qui croyaient en un ressuscité, surtout en un homme qui avait été crucifié. C'est abominable. Alors, cette engeance de chrétiens devait être dénichée. On devait détruire ces chrétiens. Et voici qu'au beau matin, Saul sort à cheval par la porte de Damas, à Jérusalem, là, en tête d'une troupe bien armée. Le groupe passe devant le tombeau de Saint-Étienne, oui. Et le voyage de Jérusalem à Damas dure à peu près une semaine. Il y a 3 routes différentes, on est sûr qu'il a pris la plus courte, hein, c'est environ 250 kilomètres. Et ça traversait le haut plateau de la Judée, dépassait Bethel, là, puis situé sur le territoire de Benjamin, dont d'où il venait, de la tribu natale de Paul. Hein. Alors, tout ça se profilait à travers les champs de blé de Samarie, où Jésus avait prononcé les fameuses paroles prophétiques. Hein. Jésus avait dit « Levez les yeux et voyez les champs ». Ils sont mûrs pour la moisson, mais ils étaient bien mûrs pour la moisson. C'est saint Paul qui va être moissonné. Jésus avait dit aussi là, « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Qu'est-ce que nos jeunes attendent pour se donner leur vie? Ils s'ennuient à mourir. Ils perçoivent leur bien-être social ou l'assurance chômage. Ils s'ennuient à mourir. Ils pourraient donner leur vie et faire mille choses. Hein? Je ne sais pas ce qui se passe. Saul était en train de réaliser la parole du Seigneur, sans savoir. Peut-être s'était-il assis aussi sur la margelle du puits de Jacob, et probablement les Samaritains lui ont-ils jeté des regards chargés de haine. Les Samaritains ne les aimaient pas, les Juifs. Pourvu que Saul ne se mette pas en tête de poursuivre chez eux des chrétiens fugitifs, car ils voulaient les garder, eux autres, leurs chrétiens fugitifs, les Samaritains. Mais ils ont respiré lorsqu'ils l'ont vu descendre avec son escorte, près de Jenin, hein, c'est dans la plaine d'Esdrelon, vous allez là, c'est très beau. Ça balaye, il y a un vent frais là, qui vient de la mer. Et Saul a pris la direction de l'est vers le Jourdain, et au loin, en apercevant la chaîne de l'Hernon, là, qui s'étire au loin couverte de neige, puis là, il a franchi le Jourdain. Les Philistins avaient pendu les cadavres du roi Saül, son homonyme Saül Saul, hein, et son fils Jonathan, on lit ça dans la Bible, hein. Il s'est hâté de traverser la contrée sauvage de Gadara pour atteindre finalement l'ancienne Via Maris qui avait été refoulée par Abraham, Eliezer, Jacob et Rachel. C'était un beau voyage, au fond. Il y avait des nuits fraîches sous la tente, tout ça. Mais c'est fantastique ce qui va lui arriver. Il était centré sur le spirituel. Son intérêt se porte sur les sujets d'ordre religieux, psychologique, hein. Saul était comme un chasseur passionné, mais n'était pas l'unique chasseur. Il y en avait un autre. Le Christ Jésus le chassait aussi, il était à la chasse. Jésus était sur la piste. Et Saul y croit poursuivre, mais il est en même temps poursuivi. Impossible à Saul, pendant ce voyage, d'échapper à Dieu, car il se trouvait en dehors du tourbillon de la grande ville. Personne avec qui s'entretenir, 6 jours de voyage solitaire, 6 nuits de réflexion, et qu'il le veuille ou non, il lui faut bien se placer devant le tribunal, si on peut dire, de sa propre conscience. C'est ce qui nous arrive à tous, nous sommes poursuivis par Dieu. Dieu nous poursuit sans cesse de son amour, de son amour. Il y a une critique hostile au surnaturel qui tente d'expliquer la conversion de Paul, sa nouvelle conception du Christ, en disant qu'il avait été marqué par les gens qu'il avait tué ou fait tuer, comme Saint-Étienne et tout ça. On parle même à son sujet d'une espèce de christianisme qui aurait été antérieur à son baptême. On essaie d'analyser tout ça. Voyons donc. C'est vrai qu'il y avait des Juifs qui attendaient d'un certain Messie, un revirement religieux, une réconciliation avec Dieu grâce à sa souffrance même rédemptrice, hein? Bon, ben, ils étaient éclairés par l'Esprit Saint, disait-il, ils étaient parvenus jusqu'à Jésus. Et ça, ce sont les premiers chrétiens, c'est le petit cercle autour de Marie, d'Élisabeth, de Zacharie, de Siméon, où on chante le Magnificat, le Benedictus, le Nunc Dimittis, je donne les titres latins, parce qu'on les connaît surtout comme ça. Mais par contre, l'image courante et rabbinique du Messie était faite plutôt de... J'hésite à le dire, mais c'est des rêveries politiques. Ils appuyaient ça sur la Bible. On s'appuyait surtout sur le passage de Daniel au chapitre 7. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que quand un peuple est asservi durant des siècles, comme les Juifs, et bien d'autres peuples sur la terre, je pense aux Kurdes, certains vont dire, comme les Québécois, mais alors ils commencent à rêver, tel le prisonnier, hein, qui est dans son cachot, il veut se libérer. Il en découle une espèce de messianisme politique, souvent, qui est identique à celui qu'ont eu les Polonais dans ce siècle-ci, avant la Première Guerre mondiale. Hein. Ils avaient leur poète, Mickiewicz. Le judaïsme s'est développé ainsi, là, dans un sens absolument erroné. Il a laissé tomber la religion des prophètes, puis la politique a tué la religion juive, l'a frustré de son héritage spirituel. Et le messie tardif du judaïsme n'était pas l'homme de douleur décrit par Isaïe, mais... un être revêtu de gloire, à la fois céleste et terrestre. Alors il faisait erreur. Hein? Il le voyait qui venait régner, juger, détruire ses adversaires. Oui, détruire ses adversaires et édifier un royaume et établir la paix universelle. Mais la conversion de Paul va changer ça dans le cœur de nombreux Juifs. Alors s'il y a des groupes de disciples qui n'avait pas réussi à se libérer tout à fait de toutes ces rêveries de pouvoir terrestre chez les Juifs, il y en avait aussi chez les chrétiens. Comment ça bien? Oui, si vous lisez bien les évangiles, hein, vous vous apercevez que des apôtres rêvent de pouvoir terrestre. Hein. D'ailleurs, Pierre fait des reproches à Jésus parce que Jésus prédit ses souffrances. Et Pierre ne tient pas à avoir un chef possiblement crucifié. Hein. Et même les disciples d'Emmaüs y est obligé de leur dire, hein, ce qu'il n'a pas fait, fallait pas que le Christ endure ses souffrances. Et quant à les disputes aussi au sujet des places de ministres dans le gouvernement, là, à droite ou à gauche du Messie, vous vous souvenez, c'est dans l'Évangile, hein? C'est les apôtres. Oui, oui, ils étaient pris comme les Juifs, c'était des Juifs. Alors, l'image messianique, l'image du Messie qu'on avait dans ce temps-là, ça hantait l'esprit de Saul, de ce Juif. Hein? La crucifixion prouvait, à ses yeux, que Jésus, qui avait été crucifié là, quelques années avant, était un faux Messie. Et puis, quant à l'idée d'une espèce de fraternité entre Juifs et les membres d'une autre race, ça lui semblait abominable, fraternité avec les Grecs. Voyons, voyons. Les Juifs étaient certains d'être un peuple élu, choisi. Il fallait pas se mélanger avec les autres, de crainte d'entacher cette foi qui était pour eux le trésor des trésors. Hein. Il faut avoir toutes ces considérations-là présentes à la mémoire pour comprendre, à sa juste valeur, cette espèce d'irruption de la conversion chrétienne dans l'esprit de Saul. Hein. Le voici donc en route vers Damas depuis 8 jours. Il y a en poche le mandat d'arrêt contre les chrétiens. Les paroles que récitaient dans une prière fervente on les appelait comme ça les Nazaréens, les premiers chrétiens, on les disait les Nazaréens qui avaient été martyrisés, ils lui reviennent à la mémoire. Qu'est-ce que c'était que ces prières? Il citait le prophète parlant d'un agneau conduit à l'abattoir. On le fait encore. Dans nos messes, on dit bien agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Tout ça dure depuis 2000 ans, et Saul avait été témoin de ça. Il parlait aussi, ces premiers chrétiens, en mourant, d'un Messie souffrant, d'un Messie qui meurt, d'un Sauveur qui arracherait le peuple à sa misère religieuse, à sa misère morale, car seul le Christ peut arracher le peuple québécois à sa misère religieuse et à sa misère morale, seul Jésus-Christ, si on le savait vraiment. Alors, c'était le troisième aiguillon, tout ça. Il a regimbé. Il y avait une colère fanatique contre une conception comme ça du Messie. Comme juif, ça lui déplaisait énormément. Alors, comment cet homme si fier du sang de ses ancêtres qui circulait dans ses veines, lui qui était de la tribu de Benjamin, va-t-il devenir un apostat? Oui, un apostat. Alors, il y va de son existence spirituelle, être ou ne pas être, comme dirait Shakespeare. Ou Hamlet. Il soupçonnait pas qu'il voyait si juste. De fait, un être nouveau et réel luttait en lui pour se dégager et apparaître en pleine lumière. Jusqu'alors, il n'avait été que, d'une certaine façon, non-être. Et plus tard, l'idée d'être dans le Christ deviendra une idée maîtresse de sa doctrine. Et telle était la situation, on peut dire historique et spirituelle, de Saul. De lui-même, il serait jamais devenu chrétien, c'était pas possible. Un tel état d'âme ne met pas nécessairement sur la voie qui conduit au Christ. C'est pas quand on vit comme ça qu'on change vraiment. Il aurait aussi bien sombré dans l'abîme. Il aurait pu se décourager. Il était agité jusque dans les profondeurs de son âme. Et ce n'était pas seulement une tentation là intellectuelle, mais ça a été un retournement, une tempête spirituelle. Et déjà, il s'approchait du lieu où il devait commettre un nouveau crime, tuer d'autres chrétiens, mais l'heure de son revirement était proche. Et voici que s'étend enfin devant lui la plaine de Damas, un oasis traversé par des eaux. La ville, au loin d'un gris de perles, avec une espèce de collier, ou je dirais de grenadiers, de palmiers, de myrtes. Mais la ville était calme, parce que c'était le soleil qui brillait, le soleil de midi. Hein? Cette éblouissante blancheur, les yeux de Sol commençaient à lui faire mal, et malgré le voile de couleur qui couvrait sa tête, il avait un voile sur sa tête. Hein? Oh, c'était comme ça pour Moïse, lorsque, dans le désert, avec son peuple, hein, il a vu flamboyer l'air au-dessus du buisson ardent. C'était comme ça. Hein? Et c'est alors que s'est produit l'événement inouï, inouï, que personne pourra jamais expliquer. Soudain, une lumière céleste a resplendi autour de lui. Alors là, ils étaient à cheval et les montures se cabrent. Elles se jettent sur le côté. Il y a un cliquetis métallique. Hein? Sol est à terre. Il y a un arc enflammé qui se referme au-dessus de lui. Et dans cette apparition de feu, il voit une face. Celle d'un homme céleste. Il en parle dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, vers la fin, là, verset 48. Il voit une face, un regard qui se pose sur lui, un regard d'éternité, où se mêlent deux choses étranges, la sévérité puis la tristesse, où la noblesse et la douceur, je dirais. Et c'est sous ce regard de feu que toute sa résistance s'évanouit, une voix lui parle dans la langue de ses pères en hébreu. Une voix aussi suave que le murmure doux et léger, dit le texte, qui se fit entendre au mont Horeb à Élie lorsque Dieu ordonna à son serviteur de se rendre à Damas, c'est dans le premier livre des Rois, chapitre 19. Et comme une douloureuse plainte, il entend prononcer par deux fois son nom, « Sol, Sol, pourquoi me persécutes-tu ? » Et en un éclair, il comprend, « Oh, ma cause est perdue, Étienne, Étienne avait donc raison, le premier martyr. » Jésus est vivant. Alors est-il étonnant de voir Sol chanceler sous le coup de massue de cette nouvelle connaissance? Hein? C'est un peu comme André Frossard sur la rue d'Ulm à Paris quand il a reçu ce coup de massue, là. Il avait 21-22 ans, il s'est converti d'un seul coup. Alphonse Ratisbonne aussi, dont je vous compte vous parler aussi, d'un seul coup, dans l'église Sant'Andrea delle Fratre à Londres, à Rome. Il est tombé à genoux, rempli de la connaissance du catholicisme juif. Que de conversion dont je pourrais vous parler comme ça. Admirable. On ignore combien de temps il a mis, saint Paul, pour poser la question qui trahit chez lui un étonnement sans borne. On la lit dans le texte hein, des Actes. Qui es-tu, Seigneur? Quelle belle question. Qui es-tu, Seigneur? Mais voici que tombe le mot qui le libère. Je suis Jésus. Et puis, comme un doux reproche, Jésus lui dit, que tu persécutes. À cet instant, le visage transfiguré du Christ lui apparaît comme couvert de sang et de blessures, sillonné de lignes rouges, comme sur la sainte face, sur le Saint-Suaire. C'est le sang des martyrs qu'il avait répandu qui coule de la face goutte à goutte. Vous direz, mais non, c'est son sang. Oui, c'est le sang des martyrs. C'est notre sang répandu en amour, notre âme. À l'instant, une connaissance nouvelle lui a été donnée. C'était l'idée du corps mystique du Christ, souffrant dans les siens. Car le Christ souffre de nos souffrances. Et nous devons souffrir des souffrances des autres pour les partager. La vraie vie du chrétien, c'est celle-là. Et alors jaillit du plus profond de son être une source dont les flots vont inonder son âme. De cette lumière, comme il le dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, de cette lumière dans laquelle resplendit la connaissance de la gloire de Dieu imprimée sur la face du Christ. Oui, sur la face du Christ, vous qui avez la sainte face chez vous, du Saint-Suaire de Turin, vous y voyez là. La connaissance de la gloire de Dieu. Vous direz que j'exagère. C'est que vous ne vivez pas assez avec votre sainte face imprimée, là, photographiée devant vous. Méditez, laissez-vous pénétrer. La lumière de la foi va briller en vous comme elle a brillé en saint Paul. Et une force mystérieuse a fait irruption dans son âme. Elle fera irruption dans la vôtre aussi. Une vie nouvelle commençait chez saint Paul, Saint Paul entrait dans un monde supérieur et c'était une capitulation totale de l'esprit et de la volonté. Il avait résisté à Dieu et c'était tout à coup l'assujettissement de toutes les pensées dans l'obéissance au Christ, comme il le dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Il n'aura jamais le moindre doute au sujet de ce qu'il a vécu pendant ces quelques instants et sa conviction va demeurer inébranlable. Il avait réellement vu le ressuscité, lui avait parlé. Mais voici que Saul revient à lui. Il n'est pas rêveur, il n'est pas de la nature d'un Hamlet à la volonté faiblarde. Non, 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 c'est un homme d'action. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est ça qu'on doit toujours prier et redire. Quand vous êtes assis dans le métro, quand vous êtes assis chez vous, quand vous vous levez, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et l'inspiration va vous venir. Hein? Et comme un héros, Saint Paul avait défendu la place forte, mais dès qu'il reconnaît l'erreur de son zèle de juif, il se décide rapidement à se mettre au service du vainqueur qui est un juif, Jésus. Ce que Saint Ignace de Loyola n'ose demander à ses disciples qu'après 30 jours d'exercice spirituel, à savoir le don généreux de soi-même, dans un énergique là, « Reçois, Seigneur, mon entière liberté », bien cet homme a la volonté de faire qu'est Saint Paul. Il le prononce en un instant, dans cet instant même. « Seigneur, arrache-moi à moi-même et donne-moi à toi. Je veux être ton compagnon. Oui, Seigneur, je veux être ton esclave. » Et c'est de ces mots-là qu'il signera ses futures lettres. Je vous ai dit que Dieu était comme un chasseur céleste. Eh bien, le chasseur céleste l'avait capturé. Il avait dompté Saul pour en faire Paul. Comme on dompte les chevaux sauvages, qui se font dociles tout à coup à la plus légère pression de celui qui les a domptés, ou d'un cavalier. Et quand Paul s'est relevé, il était disciple de Jésus pour toujours, et de cette bonté du Christ à son égard, Paul va tirer immédiatement une conclusion. Quoi? Que ce qui importe, ce n'est pas de vouloir, ni de courir. C'est uniquement la miséricorde de Dieu, c'est ça qui importe. La miséricorde de Dieu, son amour. Où est-ce qu'il dit ça? Dans l'Épître aux Romains, chapitre 9, verset 16. L'apparition du Christ ressuscité va lui démontrer son erreur, son impuissance morale et religieuse. Ça va le persuader ensuite de l'existence de quelqu'un qui est un sauveur, qui est le libérateur de tous ceux qui sont dans la misère par leur éloignement de Dieu, de celui qui est le réconciliateur. Oui, Jésus, c'est notre réconciliateur qui nous rapproche de Dieu. Le fait que le Christ ressuscité lui soit apparu, non pas sous les traits de celui qui châtie et qui venge, mais avec une face empreinte de miséricorde et de bonté. Tout ça, ça va le confirmer dans l'idée que, c'est très important ça, il comprend que la colère de Dieu contre les hommes s'est transformée maintenant en amour, grâce à Jésus crucifié, l'agneau de Dieu des prophètes. Alors de cet événement du chemin de Damas à la profession de foi en la croix, il n'y a qu'un pas. La croix devient quoi? Elle devient le signe de notre salut. Au lieu d'être un scandale, ça devient une force de Dieu. C'est pour ça qu'on peut mettre des croix partout, l'emporter à notre cou. Il ne faut pas les porter comme des bijoux, mais les porter comme des signes de notre foi profonde. En somme, cette défaite pitoyable de Jésus sur la croix devient, pour chacun de nous, un acte d'obéissance qui engendre quoi? Ce qu'on appelle la gloire, c'est pas, j'aime pas ça le mot, je dirais la sérénité profonde, la joie qui transporte. La croix devient un symbole où se croisent le ciel et la terre. Puis leur point d'intersection, c'est l'endroit, c'est là où se trouve le chrétien, là où ça se croise. Le ciel et la terre, nous appartenons aux deux, au ciel et à la terre. Oh, les critiques sceptiques ont fait des efforts désespérés pour présenter l'événement de cette route de Damas comme la vision d'un homme qui est un peu débile et hystérique. C'est sûr, c'est mystérieux, mais c'est miraculeux. Il suffit de remarquer pour bien comprendre que Paul, qui est qualifié en premier lieu pour juger de l'événement, mais il le définit en 5 endroits différents de ses lettres, de ses épîtres dans la Bible, comme une révélation du Christ vivant, dit-il. Il dit aussi, c'est une prise de possession par le Christ que j'ai subie. Il distingue soigneusement cette apparition des visions qu'il aura plus tard, il le dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12. Saint Paul considère cet événement comme la dernière manifestation du Christ ressuscité. Il m'est apparu aussi à moi, dit-il. Paul n'est pas un psychopathe, oh mon Dieu, non. Il suffit de considérer son activité. C'est fantastique, pendant 30 ans, ça prouve bien qu'il n'est pas un psychopathe. Si jamais un homme fut doué de bon sens et d'esprit pratique, c'est bien lui, il suffit de le lire. Si jamais homme fut persuadé de la vérité de sa cause jusqu'à offrir sa vie, c'est encore lui. Et si tout se déroule selon certaines lois dans le domaine naturel, si une nouvelle orientation spirituelle, sa vie présuppose un certain état d'âme, comme je vous en ai parlé, un certain état d'âme antérieur, bien la soudaineté et la persistance de la transformation spirituelle de Paul, à mon avis, ce sont les preuves les plus sûres de son origine surnaturelle. Puis quant au reste, là, les secrets de Dieu n'appartiennent qu'à Dieu. On ne peut pas analyser tout ça. Annoncer l'Évangile, ce n'est pas pour moi, dit Saint Paul, un titre de gloire, c'est une obligation qui m'incombe. Et malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Combien il a raison. Un sentiment surtout prédominait dans l'âme de Paul. Il se sentait envahi et pénétré par l'amour du Christ. Se sent-on envahi par l'amour du Christ? Ah, comment faire pour que tout le monde se sente envahi par l'amour du Christ et soit transformé et court à l'Église tous les jours pour recevoir l'Eucharistie? Entre dans un confessionnal avec joie pour s'épancher contre le cœur du Christ et lui demander pardon. Comment se fait-il que quand on se lève, on n'a pas le goût de crier sa joie au Christ Jésus? Seigneur Jésus, prends-moi, transforme-moi. Je t'aime. Comment ça se fait? Que le Seigneur soit venu auprès de ses disciples bien-aimés après la résurrection, c'est rien d'étonnant, ça c'est sûr, mais qu'il apparaisse à Paul, à cet avorton, comme il dit, à son ennemi le plus acharné, qu'il l'ait choisi, dit-il, depuis le sein de sa mère, qu'il l'ait poursuivi des années durant de son regard d'amour, comme il dit dans l'Épître aux Galates, qu'il l'ait aimé en premier lieu, qu'il se soit même immolé pour lui, voilà ce qui l'étonnait. Ah, cette charité divine deviendra le thème central de son évangile et ça devrait devenir le thème central de chacune de nos journées, de chacune de nos heures, de chacune de nos minutes. Et c'est ainsi que s'est produit pour Saul ce grand événement. Ce fut un duel étonnant, si on peut dire, entre le Créateur et sa créature. Il y a toujours comme un duel entre celui qui nous a créés et nous, ses créatures. Oh, comme nous hésitons, comme nous refusons, comme nous nous détournons de lui souvent. Mais Dieu est un chasseur puissant, je vous l'ai dit. Il poursuit avec amour les plus forts pour en faire sa proie. Les natures géantes le tentent le plus. Il aime les géants, Dieu. Oui. Et dans une telle poursuite, il ne reste aucune possibilité de fuite. Il n'y a que le choix, se rendre ou bien périr. Si on ne se donne pas à Dieu, on périt. On le voit bien autour de nous, la civilisation est en chute libre. C'est le même événement, les mêmes circonstances psychologiques auraient pu aboutir chez Paul à un désastre, mais sa conversion, c'est le mystère insondable de la grâce et de la liberté. Dans un autre cas, on sait que l'orgueil humain a conduit vers un dénouement tragique, je parle de Nietzsche. Je pense à ce texte de Nietzsche dans Zarathoustra. Je vous le lis. C'est tragique. C'est blasphématoire. Mais c'est bouleversant. Ô toi, qu'on ne peut pas nommer, être caché et terrifiant, chasseur de derrière les nuages, tu m'as lancé ton éclair et me voilà étendu par terre. Ton œil dédaigneux me regarde du milieu des ténèbres. Couché, je me roule, je me tords, tourmenté par toutes les souffrances éternelles, touché par toi, chasseur cruel. Ô inconnu, Dieu, partons. Le voilà qui fuit, mon dernier compagnon, mon plus grand ennemi, mon inconnu, mon bourreau, Dieu. Ce texte désolant de Nietzsche, qui est très beau dans un sens sur le plan littéraire, crie bien dans des termes magnifiques le désespoir de celui qui résiste à Dieu, qui le rejette. C'est effroyable, mais ça traduit très bien ce que nous-mêmes, croyants, souvent ressentons dans nos moments de désespoir. Quand nous crions et nous disons « Qu'est-ce que j'ai bien pu faire à Dieu? Pourquoi Dieu m'envoie-t-il telle souffrance? » Il y a du Nietzsche en nous. Il y a de l'athéisme en nous. Il y a de l'incroyance en nous. Il y a un manque d'amour. Un manque de confiance. Un manque d'espérance. Saint Augustin, qui avait une grande expérience de ces choses, il disait en parlant du combat de la grâce chez Saint Paul, « Elle le jeta par terre et le releva aussitôt. » Et c'est ainsi que nous, à chaque fois que Dieu nous interpelle, il nous interpelle quotidiennement, nous devons toujours, en tombant en bas de notre cheval, nous redresser. Toute conversion authentique se déroule, d'ailleurs en deux phases. Elles sont séparées parfois par un temps assez long, comme ce fut le cas chez saint Augustin. Il y a la conversion de la raison et celle du cœur. Sans la raison, l'entêtement du cœur humain, puis son refus de se conformer à la volonté divine, sont invincibles. Il faut une certaine émotion, un ébranlement du sentiment pour amorcer la guérison de la volonté, pour se convertir, pour se changer. Et lorsque Saul, sur l'ordre du Seigneur, s'est relevé, il a ouvert les yeux. Mais il n'a rien vu, il était aveugle, et voilà, debout, impuissant, lui, l'homme redoutable, et à tâtons, il cherchait ses compagnons. Et ça arrive à beaucoup de gens qui se convertissent, ils ne voient plus. Ils ne savent plus où ils sont, car ils ne connaissent pas suffisamment la foi. Ils ont besoin de guides. Ils ont besoin de nous, croyants, pour les guider. Alors il faut les conduire, leur faire lire les bonnes choses, les amener à des célébrations eucharistiques qui ont du sens et de l'intériorisation. Il faut leur faire rencontrer des prêtres vivants, des saints. Il y en a parmi nous ici à Montréal. Mais oui. Alors, saint Paul était debout, il ne voyait rien. Ceux-ci, les compagnons, l'ont conduit doucement et avec précaution. C'est ça qu'il faut faire. Ils ont conduit un homme brisé, silencieux, à travers les plantes, les fleurs, là. Ça existe toujours de nos jours, jusqu'à la porte de Damas. Ils se sont engagés dans une rue droite. C'est un beau symbole. Elle est longue, de plusieurs kilomètres, et bordée de des colonnades corinthiennes. Il en reste encore des traces. Ils sont entrés dans une auberge juive qui appartenait à un certain Judas. Aujourd'hui, c'est une petite mosquée qui indique l'endroit. Et tandis que ses compagnons à Paul, sans se douter du grand secret de leur chef, répandaient dans le quartier juif la nouvelle de l'arrivée de Saul et du but de son voyage, celui-ci s'est retiré dans un appartement puis refusait tout ce que l'hôtelier lui offrait à lui, Saul, qui était un personnage important, le juif qui venait de Jérusalem, et pendant 3 jours... Il ne mangea ni ne but. Pendant 3 jours, il était comme mort au monde extérieur. Et ces 3 jours qui se situent entre sa mort mystique et sa résurrection spirituelle par le baptême, ça présente, évidemment, on voit le rapport, avec les 3 jours que Jésus a passés dans le tombeau. 3 jours durant, Paul est plongé dans un sommeil mystique. Et qu'est-ce qu'il attend? Le Christ lui avait dit qu'il apprendrait à Damas ce qu'il devait faire. Et ainsi les apôtres avaient-ils dû attendre à la Pentecôte. Et nous devons attendre aussi avec l'Église. Et si nous attendons devant l'autel ces grâces profondes que Dieu veut nous donner. Et c'est cette attente en nous qui permet à Dieu d'entrer. Il faut appeler Dieu. Il faut le lui demander. Si Saul a mis 3 jours à déblayer les ruines de toute sa vie antérieure, c'est pas un vide qui a succédé à ça. C'est un élément nouveau qui veut faire éruption dans son âme. C'est la vie nouvelle dans le Christ. Et nous qui lisons les épîtres de saint Paul, ces documents qui sont d'une psychologie unique, dans la littérature mondiale, je le dis bien, dans la littérature mondiale, on voit bien que, à toutes les pages, il y a une pensée. Et Paul dit et répète, « Il m'a fait miséricorde. » Jésus nous fait miséricorde, si on se donne à lui. «